Alors, il était formé par mon grand en 85, et dans la plupart des plans du chantier. Et toutes les archives ont été récupérées directement ici, en 94. Et dès lors, les archives n'étaient pas encore travaillées, elles étaient brutes. Et j'ai pu travailler sur tout le secteur relations public relations, comme ils disent, depuis le début de sa création, avant 1900, jusqu'à sa fin 1985. Et j'ai pu apprendre le travail des conservateurs, à savoir généralement 90% on les tue. Les archives, on ne garde ce pour les gens avec qui on sait qu'on travaille. Et on travaille avec qui. Voilà. Donc j'ai eu la chance, et dans un numéro de communication et organisation, j'étais l'interview de Georges Mouradian et j'ai essayé de présenter et de lui faire présenter ce qu'était le travail d'archives. Et c'est effectivement, il y a très peu de chercheurs qui viennent. Les chercheurs parisiens, pour venir ici, c'est pas là, c'est vraiment pas classique. Deuxième chose, ben, Infocom, nous serons certains dire, ça s'appelait Infocom, c'était un unité. Et effectivement, le deuxième colloque d'Orléans-Pont s'est passé en 98 là-bas. Et à venir ensuite, le deuxième bouquin s'approuve en 2000. Voilà. Donc, le petit souvenir. Et travail et culture que vous avez entendu ce matin.
C'est la remarque que tu vas faire.
Ben, je se trouve qu'avec ma collègue, sociologue, a travaillé dans le master culture que je dirigeais à l'époque. Nous avons travaillé avec Nicolas Moudet, déjà, c'était encore en 2012, avec Stéphanie Pugnin sur l'amour du métier. Et les questions que vous pouvez poser, la question de l'amour du métier. Voilà. Et là, je vais vous booster un petit peu, vous m'excuserez, on a 45 minutes, mais je vais passer un peu quand même. J'ai cherché à écrire en faisant de l'histoire, une manière nécessairement mais résolument modeste de dire la trajectoire d'une pensée particulière, voire bizarre, pour organiser. Et les positions que cela donne sur le travail, et sur les communications au travail et pas que les communications de travail. Je vous l'expliquerai en pointant les grandes difficultés à penser théoriquement la communication et l'apport que penser avec le verbe communiquer peut être aujourd'hui une manière d'essayer de faire une épistémologie d'aujourd'hui. Trajectoire de pensée, ce que je viens de dire, c'est une formule que je regrette aussitôt. Elle est vraie, c'est un mauvais algorithme. Car de fait, ce que je vais commencer par analyser de manière critique, c'est ça. Cela vient du travail que j'ai dû faire quand Christian, ici présent, m'a demandé il y a 6 mois mon CD et ma liste de publics. Je me suis prêté à l'exercice et les difficultés de cette entreprise ouvrent ce premier moment de mon intervention. La demande de Christian et les difficultés pratiques pour faire un texte, il a été fait 20 ans, ont joué pour moi le rôle d'accélérateur épistémique. En effet, l'épistémologie, ce n'est pas de la philosophie des 200 dernières années. Oubliez Kant, ce n'est pas grave. Mais prioritairement, un retour de pensée critique sur ce qui a permis de travailler, donc d'abord de la politique. Si nous acceptons que nous ne sommes pas des auteurs, mais des gens au travail, ah, des enseignants, pas du CNRS, pris dans un monde qui n'arrête pas d'être gouverné autrement, du processus de Lisbonne à Parcoursup, en passant par l'atmosphère, etc. Et plus largement, le New Public Management et la loi de 2007 sur les universités et leur autonomie. Bon, la contractualisation. Et les formations, souvent formations professionnelles où nous trouvons des postes, n'arrêtent pas non plus de changer et donc peuvent rendre obsolètes nos connaissances sur certains mondes sociaux et leurs organisations. Mais enseignants-chercheurs, les changements d'administration ou de la recherche, labo, AERS, CRS, équipe, AXE et leur pilotage. Vous aurez des thésards si vous inscrivez dans les ressources pilotées régionales ou autres, des thématiques forcément interdisciplinaires, silos de recherche pilotée et partenariale, et oui, aux nouvelles obligations d'écriture. Alors voilà qui modifie aussi nos méthodes et notre épistémologie. Et alors réfléchir au devenir de nos travaux ne peut pas se faire comme un égo auteur. D'autant plus que nous sommes un nous dans une jeune sous-discipline, à moins que ce soit. soit une thématique disciplinaire, à moins que ce soit un champ de recherche. Alors, dans ce contexte, comment se dire, discuter, penser avec ou à côté, et parfois contre. Et ma première vision, alors, voilà que je devais communiquer, et quoi ? Mon CD et ma liste publique. Je réfléchirai ici en appuyant sur quelques anecdotes d'un document ou d'un page. Ces anecdotes sont choisies pour vous, pour les plus jeunes et même pour ceux qui sont aujourd'hui au bord de la retraite, car 50 ans de travaux, cela donne des choses peu imaginables si ce qui importe, ce sont les conditions de travail. Devoir ainsi communiquer m'a forcé à mettre en lumière plusieurs histoires et historicités que l'on traite trop facilement comme contexte, alors que ce sont des conditions de travail. Quatre histoires au moins. Un, celle qui est la plus évidente, car tous les acteurs documentent quelque peu cela et aiment à dire quels acteurs ils ont été. C'est l'histoire politique, institutionnelle. C'est ici quand même, du marché du travail universitaire, il est constant cycle. Beaucoup de postes dans les formations professionnelles, des IUT. Pas forcément en carrière de l'information et en communication, mais en technique d'expression pour la gestion des entreprises et administration, ou pour les techniques de commercialisation, ou pour... Au début de l'organico, c'était majoritairement le cas. Des lieux, les IUT, sans organisation de la recherche. Il fallait aller ailleurs pour faire un loup. Le Grésset, le Grenoble, le Nîmes, Bordeaux, le Nîmes, Toulouse, l'exercice de Rennes, et petit à petit, j'ai le coup ici. Bien, une anecdote. Le collectif Centre de Recherche CERTE, ou CERTEC, le début d'études de communication, qui deviendra Géricault et a porté la revue Études de communication, a reçu en 1989 Jean Méria, que les collègues en SIC, Sciences de l'information et de documents connaissent pour le rôle crucial qu'il a joué dans le développement français et européen des Information Studies, et que les historiens des débuts de la SIC connaissent pour son rôle dans le basculement, grâce aux profs, parce que les mêmes réponses étaient déjà faites, vers une majorité de gauche du CNU en 85, je crois. Et c'était face à Charles-Pierre Guilbault qui avait fondé le CELSA en 57. Il nous a conseillé de laisser tomber les techniques d'expression, fondement du premier collectif, pour devenir vraiment SIC. D'où études de communication avec une numéro 13, sortie en 92. Une moins évidente, la deuxième, celle des lieux des équipements. C'est idiot, direz-vous, mais les IUT étaient installés où ? Non autorisés à développer de la recherche, avec tout simplement des bureaux entre la salle enfumée de réunion pour le collectif gérant le département. Donc, à quelle distance des collectifs de recherche, avec quels moyens pour y aller ? Le métro, ça n'existait pas. Et encore, pour ma part, j'avais de la chance, non pas d'être à Lannion pour aller à Rennes, mais d'habiter sur place en métropole lilloise. Mon premier poste était alors en IUT, sur l'île même, là-bas, technique d'expression pour le département carrière sociale, formation d'éducateurs spécialisés, d'où mon premier bouquin. Un IUT classiquement sans accueil de recherche, avec des bureaux individuels, sans encore d'équipement informatique, le premier, c'était généralement le secrétaire. Je serai accueilli ici, dans un bureau équipé, à Roubaix Infocom, un des tout premiers IUP installés en 90-92, où se situaient les chercheurs de Géricault, qui quittaient ainsi l'existence du collectif CERT, qui était localisé auparavant à Villeneuve-d'Ascq, dans une salle mise à disposition par les lettres modernes, où nous imprimions notre revue sur une machine à alcool, en tournant pour assembler et agrafer, avant de bénéficier du service des presses du septentrion, par soutien de la présidence de Guillotroy. Oui, car les lieux, dans tous les univers de travail, c'est aussi des équipements. Et nous voilà pris dans une autre histoire, celle des équipements d'inscription, d'archivage, de mémoire. Ici encore, cela peut nous alerter sur la disponibilité des équipements. Quelle mise à disposition des lieux d'inscription, espace dédié selon l'organisation elle-même, souvent équipement de bureau, quelles restrictions ? Vous avez la clé ? Anecdote. L'équipement individuel de mes premiers textes, des mémoires de maîtrise, fut une machine mécanique personnelle Olympia. Puis j'ai fait le choix d'une machine électrique à écrire Philips en mémoire à bande pour tenir moi-même mes productions et leur qualité sans en passer par des frais de secrétariat où on avait encore des imprimantes à tic-tic-tic. C'était pas encore les imprimantes toujours du restant. Je passais directement à l'imprimerie. Je suis passé tout doucement au PC, d'autres se mettaient au Mac, au moment où il fallait, pour être bon, connaître les macros. Oui, le PC. Moment aussi de mise en place des URPIST, Union Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique, le plus souvent basée dans les bibliothèques interuniversitaires, donc dans les métropoles, n'est-ce pas ? Bien. Mon premier ordinateur sur le site universitaire doit dater de 95, bien avant les clés USB, avec des disquettes, oui, pour transférer les fichiers faits chez soi sur un dispositif collectif universitaire pour les sorties imprimantes, notamment, mais pas encore d'Internet. Mais on pourrait poser des dates jusqu'à Skype ou Zoom, date de généralisation, c'est vraiment le Covid. Les nouvelles salles pour le distanciel, les MOOC et les nouvelles formes de travail collectif des équipes et groupes de recherche. Rappelez que la généralisation du smartphone n'est qu'après 2012. Cette histoire, en tout cas en France, cette histoire doit aussi nous alerter sur les formes de délégation des tâches d'inscription, de celles d'archivage aussi, des formes de contrôle sur les inscriptions et leur circulation. Les équipements du travail communicationnel, déplacement, équipement collectif et individuel, de nombreux salariés dans de nombreuses activités changent. Alors, en prêtant plus attention à l'organisation même du travail d'inscription et d'archivage dans les organisations complexes d'aujourd'hui, on éviterait de faire du présentéisme. Par exemple, en gardant la discipline intellectuelle de prendre au moins deux moments éloignés pour établir la panoplie des équipements informationnels et communicationnels disponibles et en usage, à tel ou tel moment, au poste que vous occupez, si l'on veut penser à leur transformation pour ne pas céder aux sirènes de la révolution numérique. Trois, mais c'est aussi une histoire de format. Ah, je n'ai pas un CV permanent que j'actualiserai à chaque production. Là maintenant, je pense que tout le monde est à peu près comme ça. Mais moi, j'en ai fait pris dans un exercice. Or, il y a autant de raisons d'analyser la transformation de ce format, de sa catégorisation, que de s'intéresser à tout autre genre d'écrit professionnel, c'était pris dans des carrières, postuler, recommencer, prétendre à. D'une simple liste de publications, autre chose, un mot lui aussi à interroger historiquement et économiquement, pour des listes d'aptitudes, la mienne en 70, inscription à la liste d'aptitudes des fonctions de maître assistant. Bien. Alors on est passé à une nouvelle forme de contractualisation, celle des labos. Associé à une norme concernant les chercheurs. Ah oui, plus que les labos, mais aussi les chercheurs. La EMS datant de 2006, transformée en HCERS en 2013. Publish or perish, n'est-ce pas ? Dès lors, une obligation contractuelle a été organisée dans chaque labo. Merci à Olivier Chantraine et Elisabeth Fichet pour Verico. Ils en ont bavé. Sur une durée de 4 ans. Une fois que l'informatisation des éléments, la stabilisation des catégories de production, merci HCERS, le mode de recueil et le contrôle mis en place, les gens ont trouvé leur manière de produire des CV et du livre de public. Les évaluations individuelles par liste de publication et leur catégorie, c'est une manière de traiter notre activité. Je veux éviter de considérer cet exercice obligé comme intemporel. Je veux aussi envisager cette norme d'existence, curriculum vitae, n'est-ce pas, ici professionnelle, et d'évaluation, comme le balisage française pour des carrières universitaires prises dans une activité ici dans ce monde chercheur en cycle. Alors, dernière surprise du travail, la quatrième historicité. J'avais des éléments gardés en mémoire sur mon ordinateur, mais mes agendas papier ne me permettaient pas toujours de retrouver les bonnes dates de mon activité. Comme s'il me manquait une mémoire organisationnelle, laissée à d'autres, le secrétariat de Géricault par exemple. Bon. Alors, une pensée critique me vient. Comment faisons-nous pour avancer sur ce que nous estimons être le contexte socio-politique ou socio-économique des organisations ou des métiers que nous voulons comprendre organisationnellement ? Qui est porteur de la mémoire organisationnelle ? C'est certes de celle organisée et managée, mais celle des acteurs qui mémorisent leurs évaluations des situations, leur trajectoire. Cette mémoire est faite de fragments divers sur des supports divers. Référence de date, inscription dans des agendas, sur des petits bouts de papier recyclés, mémoire de mail, dossier en vrac ou retravaillé de temps en temps en récit, ce que les historiens appellent l'ego-documentation. Alors, À l'époque des années 75-85, on aurait dit que je me focalisais sur une analyse du travail intellectuel ou de la part intellectuelle du travail. Lire, interpréter, écrire, penser les situations. Mais je voulais avancer sur les conditions de travail de ceux qui sont engagés dans ce travail. Or, ces conditions de travail évoluent, car ce travail est équipé et normé, j'en reviendrai, équipé d'équipes, de crew, comme on dit en anglais, d'équipage, de collectif, mais aussi équipé d'outils, et enfin équipé de valeurs, et de essayer de vous dire pourquoi. Et ce travail individualisé, donc, ne peut se faire sans aller-retour avec des échanges, sans des collectifs, collectifs métiers, ou organisés sur d'autres bases, organisation par projet, ou cette forme bizarre, organo. Cette réflexion critique sur une fabrique de documents me paraît bien ouvrir à ce que je voudrais faire pour vous. Peut-être certains auront reconnu dans cette manière impliquée et peu académique, que je me suis déjà fait engueuler comme ça par communication et organisation, de démarrer une approche intime de ce que fait Donna Haraway en voulant mettre à jour les savoirs situés. Alors, seconde séquence. Le thème même de ce colloque me donne l'occasion de m'expliquer sur la manière différente dont j'ai construit mes positions ces 30 dernières années. D'une certaine manière, il s'agit d'exposer la logique globale de mes travaux et ses conséquences en termes de complexité épistémique, et je vais passer en 4 longs moments, si bien que le 5e sera dans les actes, parce que je vais exploser toute la matinée. Bon, alors, une position globale, et si on tentait, pour penser les gens au travail, de théoriser en démarrant par communiquer, puis travail, puis organisation, puis activité. 2. Et si communiquer, que ce soit interaction ou écriture, se fait dans l'activité, voire comme un élément d'un métier, alors communiquer, je le prends comme un moment, et pas tout le travail. Partie, travail communicationnel, disons pour l'instant. Le 3 est sujet, subjectivité au travail, enjeu subjectif. Le 4, conditions de travail et conditions du travail communicationnel. C'était pas la meilleure des manières de titrer. Et voilà. Et effectivement, je laisserai tomber communiquer au travail, mais je vous expliquerai ce qui se passe. Alors, on va rester sur la prochaine. Et donc, si on tentait de commencer par communiquer, pour définir des articulations avec ces autres termes que sont travail, organisation et activité. Car nous trouvons tous ces termes dans nos moments d'écriture et d'inflexion et dans nos paroles ordinaires, n'est-ce pas? Et pour toutes les SHS, épistémologiquement, c'est complexe. Pour commencer, réfléchir avec le terme de travail n'est pas simple. Les auteurs de l'appel à la communication de ce colloque intitulé « Communication, travail et organisation » le savaient bien, l'ont rappelé tout à l'heure, ils ont cherché à préciser leur acception pour ouvrir les choses. Certes, il faut d'abord souligner que le contexte socio-économique est marqué par la complexification et la diversification des structures organisationnelles et des formes de travail. Et ça a suivi par le jeu des formules « travail et organisation » et « organisation du travail ». Ensuite, ils se sont appuyés sur un ouvrage récent d'Excellonet pour ouvrir au travail social nécessaire. Je reprends cette citation d'Excellonet pour vous faire entendre un premier jeu entre travail et activité. Axel dit, l'ensemble du domaine de ce que je vais appeler le travail social nécessaire se compose de 3 types d'activités. L'élaboration d'objets naturels ou déjà créés par l'homme dans le but de produire des biens utiles. L'échange plein de sollicitudes avec d'autres personnes à des fins de soins, de conseils ou d'enseignement. Enfin, le maniement professionnel de symboles à des fins de calcul, d'analyse et de traitement donné permettant de piloter certains processus sociaux et économiques. Il dit plus loin, il faut désormais considérer comme socialement nécessaires les activités qui, soit dans un cadre clairement orienté vers l'objet, soit dans le cadre du traitement symbolique, soit encore dans un cadre communicationnel, rigolo, symbolique et communicationnel, n'est-ce pas, présente une valeur générale pour la société. On dira connaître possible ainsi un élargissement considérable de ce que peut être le travail, avec son travail social nécessaire. Concept nécessaire à une épistémologie critique de la société. Bien. Mais on peut interpréter la difficulté de penser avec le mot travail autrement en suivant Marielle Dujarrier, elle aussi citée dans l'appel à la communication. Travail n'est pas exactement un concept, mais une catégorie de pensée, dit-elle dans un de ses ouvrages « Trouble dans le travail » sur 2021. Et ce depuis longtemps, car travail est une activité que la société nomme ainsi et qui a donc une dimension institutionnelle, le droit du travail, l'ensemble des organisations du travail, de travail et culture, s'intimule. Mais aussi une dimension anthropologique, difficulté et plaisir à résoudre des problèmes, dirais-je, et donc potentiellement émancipatrice. On trouve ça même chez nous. Et sa dimension économique en fait aussi un emploi avec ses possibilités aliénantes. Dès lors que travail est une catégorie de pensée aux multiples dimensions entre lesquelles nous naviguons, son usage conceptuel est redoutable. Alors, pour éviter de vous perdre et de me perdre moi-même, je dirais que pour ma part, en proposant de commencer par communiquer et communiquer au travail, je choisis de prendre le travail comme un moment où l'on va au travail, et donc aussi un lieu de travail, où un emploi vous place, où vous déplace, ça dépend de la chance que vous avez d'avoir un emploi stable, n'est-ce pas ? Donc, les gens que je veux comprendre sont quasi toujours des salariés pris dans une activité organisée, dans une organisation. C'est la limite, le cadre de ce que j'ai travaillé. Alors, activité, je vous ai fait entendre l'aide et la manière dont le terme d'activité joue avec travail. Mais il y a ici aussi, avec activité, de l'histoire des SHS, que nombre d'entre nous ont pu croiser, car ça fait plus de 30 ans que les SHS ont développé des approches de l'activité. On peut estimer que la distinction entre travail prescrit et travail réel, a été l'une des manières de vouloir observer les gens au travail. Dans un très bel article de 2008, Christian Licop l'analyse. Il souligne que, à l'international, en anglais, on dit plutôt le practitioner, et que le terme d'activité a été préféré en francophonie pour éviter les connotations trop marxistes pour certains du terme de pratique et pratique sociale. Licop distingue quatre orientations différentes que je ne vais que citer ici, mais dont tel et tel d'entre nous ont pu s'inspirer et discuter. La cognition distribuée, Norman, Hutchins, par exemple, que connaît fort bien Marie, la théorie de l'activité de Witzowski à Engelstrom, que Carole Grolot a travaillé et nous a présenté peut-être déjà à Trois-Rivières et peut-être encore en Sultanis. La théorie de l'activité, donc, de l'action située, mon troisième, et sa variante des Workplace Studies, sur lequel je reviendrai. Enfin, la sociologie des sciences et des techniques, Latour notamment, mais Beatrice aussi. Tous ces courants visent à redonner une épaisseur pragmatique aux activités des opérateurs, d'accord, chez Latour, c'est les innovateurs, ailleurs, ce sont les participants, les collectifs. Autre élément central, dans ces quatre orientations des années 90-2000, observer en activité les équipements, c'est gros. Le terme le plus fréquemment utilisé alors, c'est plutôt les artefacts, que certains traiteront comme des actants. Alors, organisation. Mais dès lors que ce qui nous intéresse, c'est le cours d'activité, nous observons les gens au travail, engagés dans une activité organisée, et nous sommes amenés à penser de manière plus spécifique l'organisation. Ah, mais ici encore, il y a plusieurs manières de penser l'organisation. Dans les approches des communications organisationnelles, l'approche montréalaise de l'organizing est maintenant bien connue et parfois discutée. Il y a même eu la communication et l'organisation récente sur ce sujet. Bien, mais d'autres s'intéressent de plus près au management, estimant que l'activité organisée est managée. Je suis, quant à moi, plus proche de Terzak et Dujarrier, qui analyseront le travail et l'organisation, oui, encore un travail, avec division et répartition du travail et la prescription, pour mieux prendre en compte le jeu du pouvoir qui s'opère dans la cascade hiérarchique des organisations, car chaque niveau est amené à réinterpréter des textes d'orientation disant ce qu'il y a à faire, chacun réinterprétant aussi en termes de bien faire à son niveau de responsabilité. Travailler d'organisation, c'est une manière de rejoindre l'approche des processus infocommunicationnels qu'apportait Organ Code. Or, ainsi, penser l'activité et ses organisations c'est aussi ne pas lâcher une analyse socio-économique et devoir penser des organisations complexes, à commencer par la firme, l'entreprise, faite de services de plus en plus nombreux, au siège, et sur différents sites. Et déjà, pour une seule firme, Cardon et Morel montraient, eux, c'était Orange, qu'il pouvait y avoir plusieurs organisations, là, les opérationnels, les installations un peu partout en France, si on en parler, mais aussi les gens de la recherche et innovation à Grenoble, ou encore les commerciaux des producteurs qu'on avait remis en commerce et qu'on mettait dans les agences, n'est-ce pas? Bon, et ils étaient managés de manière différente. Cardon et Morel s'appuient sur les plusieurs types de management de. Je ne sais plus, je l'ai mis au moyen de m'échapper. Mais voilà. Donc, je reprends. Ils étaient managés différemment, les conséquences obligées dans leur observation, pour lesquelles les outils infocommunicationnels ne pouvaient être un seul intranet pour tous. Chez eux, pour la gestion RH des demandes de congés. Bien. Donc, désorganisation dans un monde économique de flux tendu, où les choix d'internalisation ou d'externalisation, de fonctions, les organisations d'activité ne sont pas seulement une entreprise ou une administration, mais des systèmes de relations, donc de process. J'aime bien le mot chaînage. Des chaînages de discussion empruntant tous les instruments relationnels ou infocommunicationnels utiles. La supply chain de Florian Raymond aussi même, qui étudie dans sa thèse comment les ingénieurs toulousains de l'aéronautique Grand Compte allaient sous forme d'association, apprendre aux PME, par exemple celle qui faisait la peinture des ailes d'avion, comment gérer leurs achats, avec quel logiciel, pour réussir le flux tendu et la clean. Un autre système de décision pour un autre secteur d'activité, celui qui va du signalement, obligation de signalement, police, gendarmerie, à la protection de l'enfance ou la prévention de la délinquance, aux instructions des dossiers avec leurs juges, aux formes de prise en charge de suivi sur de longues années, enfants, adolescents et parfois même adultes, voire le Christian Lemoine ou du Delcombe et Mathusac. Bref, dès lors, l'activité est organisée avec plusieurs organisations de travail. Alors, pour conclure ce point, chacun cherche un ancrage qui tienne, aidé par les profs au moment de la thèse. Pour ma part, je démarre par communiquer. Dès lors, la complexité du monde social de travail où nous pouvons faire des recherches de terrain. Ajouter à la complexité épistémique de pensée communication, travail, organisation, activité, m'amène à accepter la diversité de nos terrains. Je souhaite qu'on ne monte pas trop vite, nous, en généralité, qu'on prenne le temps de comprendre les différences, que les contextes propres au moment traversé par l'organisation ou propres au chaînage organisationnel changeant produisent. Car même les équipements communicationnels changent, j'ai voulu le faire sentir dans la première partie de mon intervention. C'est simple. Et si communiquer, que ce soit interaction ou écriture, se fait dans l'activité, voire comme élément d'un métier, alors communiquer, je le prends comme un moment, pas tout travail communicationnel, disons pour l'instant. Et oui, car on ne communique pas tout le temps au travail. D'autres en communication organisationnelle étudient le développement de la communication institutionnelle et les transformations dans les métiers et services de communication. Les postes que moi j'ai occupés m'ont plutôt fait travailler sur d'autres métiers et leur travail communicationnel. Accepter un moment de communiquer pour les gens au travail, ce soit être pris dans des interactions, d'où pour nous des méthodes d'observation, n'est-ce pas? Ou qu'ils aient à écrire d'autres méthodes d'observation lors de la fabrique, du recueil, ou aussi l'analyse des textes et d'autres sémiotiques, et de leur transformation lors des circulations. Cela ouvre à des histoires différentes et à une théorisation qui ne saurait avoir la globalité d'une théorie de la communication. Je m'explique. Dans les années 80, les moments de communication étaient analysés classiquement par la psychologie sociale et les manuels de Robert Michelli, long complexe, aux ESP. C'était l'analyse des situations de communication. Une formule qui a encore couru la semaine dernière. Moment stable de relation sociale de communication que certains diront routinisé. J'ai aussi vu un article là-dessus, des routinisations. Bref, des situations canoniques s'opposant, formelles, informelles, complémentaires, symétriques. L'analyse du cours d'activité va permettre de s'intéresser davantage aux dynamiques, à la dynamique des échanges, analyse de la conversation dans les années 90, mais aussi en cycle, à ce qui circule, peut être transformé, les discours, les propos, les indicateurs, mais aussi les data. Ou encore, et encore, ce qui circule, voire les obligations pour les administrations dans le cadre réglementaire de faire de le droit de l'information aux usagers, n'est-ce pas, ce qui circule, ou à l'inverse, ce qui doit rester confidentiel. Mais je voudrais souligner que dire que ce sont des moments d'une activité organisée et non engagée, cela implique que ces pratiques communicationnelles posent aussi des problèmes pour produire de la permanence, la disponibilité, la stabilité des inscriptions, ou de la continuité, c'est les problèmes de traçabilité, ou de la mémoire, et c'est le problème du reporting. Nos collègues de SIC, spécialistes de l'information documentation, peuvent même dater le moment où les documentalistes d'entreprise ont dû faire du knowledge management ou du report management, et pas seulement de la veille pour les chercheurs de leur labo, dont laborant l'Institut Pasteur et autres. C'était la fin des années 90. Fin, presque dix. Mais il y a aussi les dossiers perso et la construction de la mémoire individuelle et collective. Des moments, alors ce sont des moments, nous voici aussi face à ce que l'organisation du travail rend possible ou non. Et les caractéristiques spécifiques du travail communicationnel, les conditions du travail communicationnel prescrits ou inventés dans les collectifs. Et les caractéristiques globales des communications prescrites, licites ou non, autorisées selon votre place. Sans oublier la difficulté qu'Hochschild avait tenté de travailler en différenciant du emotional work lié aux négociations sur les conduites émotionnelles dans l'espace privé et emotional labor lié aux conduites attendues sur le workplace par le management dont les conduites elles, émotionnelles, c'était elles propres au contact avec le public pour les hôtesses d'aviation et pour les récupérateurs de finances dans les avions aux États-Unis. Le travail communicationnel, ainsi, c'est aussi la transformation de compétences ordinaires, dans la dramaturgie des échanges, dans l'usage de son corps, sa voix, dans les outils dont on dispose et dans l'habileté que l'on peut avoir à faire avec eux. Work, oui, et labor, dès lors que les pouvoir organisationnel restructure le possible, le permis, l'obligé, il y aura donc de quoi dire avec l'IA, notamment la générative. Bien. Et je passe à ma 6. Alors avec quelle méthode, pour quel moment? Ah ben non, je suis en courant. C'est pas grave. Les approches disciplinaires se construisent, notamment par les méthodes préconisées pour enquêter, observer. Dès lors que l'on s'intéresse à l'activité et à des séquences communicationnelles de gens au travail, comment enquêter? Suivre des acteurs dans une approche latourienne, développer l'observation sur le workplace en y trouvant sa propre place. Certains privilégient les méthodes par immersion. Ouf, il y a des thésards. J'ai fait, quant à moi, du shadowing, au moment où j'étais en retraite. J'ai beaucoup appris avec cette méthode qui permet d'être attentif aux équipements, aux espaces équipés où se produisent des moments de communication. Avec Caroline Bachary, on va revenir en arrière parce que, comme je l'ai mis, voilà, c'est ici. Merci. Avec Caroline Bachary, on peut apprendre la dispersion au travail, donc les formes actuelles de multi-activité. Mais on peut aussi observer comment les équipements technologiques installés dans l'espace de travail réinscrivent et sollicite les acteurs. Caroline Bachary dit le responsable de labo qu'elle est préoccupée dès l'ouverture de son ordi. L'ouvrage collectif dirigé par Kessous et Metzger, le travail avec les technologies de l'information, fournit aussi l'analyse. L'observation de situ permet aussi de repérer la panoplie, pour reprendre une observation de Michel Lacoste, ici même en 1998, la panoplie d'équipements dont disposent ou non les gens au travail selon leur place. Elle permet encore de suivre les déplacements équipés de certains salariés, comme en hôpital, où les charbonniers se déplacent, où des internes ont des petits papiers dans les poches pour reprendre une formule d'Anne Maillère, Isabelle Bazé et Angélique Cronin. Le danger de cette pratique de recherche serait de céder trop facilement au phénomène technologique et d'oublier trop vite que des générations de technologies encore en usage et ça apporte la panoplie d'outils dont je parlais à l'instant. Mais c'est rarement le cas. Alors, observez, encore une fois, comme pratique orale écrite. On y est. Il nous faut revenir sur les disciplines et les théorisations disponibles pour penser communiquer au travail. Une des voies anciennes est de distinguer les échanges et les pratiques écrites. Les échanges oraux, interaction et les pratiques écrites. A priori, cette distinction ne semble pas tenir la route épistémologiquement. Qui observe les gens au travail devant un ordinateur, téléphonant sur un smartphone personnel ou professionnel, barrant de la to-do list ce qui est fait pour penser le reste à faire, et dans une collègue de bureau d'à côté dans l'open space d'un bureau collectif, allant chercher à l'imprimante à 10 mètres de là une sortie informatique à ranger dans un dossier papier qui sera pour un déplacement prochain pour un atelier danse, j'ai vu tout ça au Chanel, vous voyez à Calais, c'est un très beau lieu, on est dans du visible. Du lisible. Oh, le lisible, pas si facile à suivre online les écrits sur l'ordi quand vous êtes derrière quelqu'un. De l'audible. Et pourtant, cette distinction résiste, et cela pour plusieurs raisons. L'une d'elles renvoie justement aux besoins d'histoire, aux temporalités différentes, pour comprendre la constitution des espaces même. Espaces d'inscription, par exemple, le scriptorium, oui, c'est vieux, le bureau pour l'écrit. Là où il faut installer des prises électriques pour les ordinateurs avant que les piles au lithium, invention de 91, généralisation 2005, nous permettent une durée d'usage des ordinateurs portables et des tablettes. Pour la parole, les corps et la visibilité, l'amphithéâtre et l'histoire de ses pentes, ceux qui sont au CNAM peuvent en dire quelque chose, c'est 45 degrés. Pour la parole, les corps et la visibilité, on est avec le cœur des églises abbatiales, on a les stades des abbés, on a la chair en hauteur, oui, dans les églises, on a nos salles de webinaire. Bref, des espaces aménagés, mais aussi la mise en place et la stabilisation de formats d'échange oraux, écrits, présentiels, distanciels. On les estime, j'insiste effectivement là-dessus, souvent la description des espaces où se font les écrits et où se produisent paroles et images, et donc la circulation des genres, des mots, des inscriptions et leur mémorisation. Or, la nécessité de comprendre la stabilité ou les mutations de format, d'espace, d'outillage, de circulation et leurs effets infocommunicationnels nous aspirera vraisemblablement vers des historicités fort différentes et des spécialités historiennes très différentes aussi, mais qui nous éclairent sur les transformations sociales et techniques du travail communicationnel. Alors, vraisemblablement, pour nous aussi, et surtout en ce qui concerne les communications organisationnelles, la distinction entre les échanges, interactions dans les espaces situés avec ou sans visibilité entre protagonistes, mais avec possibilité d'auditoire, et d'autre part les écrits, reste valide, même si les technologies actuelles semblent modifier la donne. L'argument que je donnerai est que le chaînage des productions verbales et des inscriptions n'est pas le même. Les écrits, en effet, peuvent donner lieu à archives, entrer du coup dans le registre de la traçabilité, de la preuve, du droit. Et les organisations sont aussi prises en des règles d'archivage, renvoyant cette fois au droit des affaires. En ce qui concerne l'écrit, je reconnais que les limites de mon propre travail et d'avoir plus travaillé le moment de la fabrique des écritures, alors que de son côté, Christian Lemoine analysait plus globalement les écritures comme une partie d'une politique des écritures qu'il estimait souhaitable dans le secteur médico-social. Et cette limite renvoie à des choix méthodologiques qui rendent difficile l'observation des circulations écrites, papier, numérique. D'autres que moi, car cela demande des compétences, ont pu mieux observer et analyser la circulation des inscriptions, la transformation de texte en données, de tableau en indicateur, bien avant la généralisation des procédures de calcul, d'interprétation de données propres au numérique. Ainsi, le Souchier généré et le Marac Ainsi Jean-Max Noyer et Mariscal, et ainsi Philippe Marast. Bien. Alors, sujet subjectivité, ça va être mon prochain. J'en viens maintenant à ce qui me met le plus souvent en décalage avec nombre d'approches qu'on lit chez les enseignants chercheurs dans mon cours, qui ont été longtemps centrés sur les processus, dans la lignée du constructivisme de Jean-Louis Loigne, voire de Césaire. Je pense que si on se focalise sur communiquer au travail et qu'on cherche à observer et comprendre les gens qui communiquent au travail, alors on est obligé de réfléchir à la manière dont on analyse des sujets, pas seulement des acteurs sociaux ou des individus. Deux colloques d'Organcon, celui à Bordeaux, la face cachée de la communication organisationnelle, celui de Montpellier, sens sensible, insensé en communication organisationnelle, me semblaient rouvrir la question des sujets. Donc des sujets avec des corps et des émotions, des sujets qui interprètent les situations. Or, être confronté aux approches SHS des sujets dans le temps des recherches, dans les années 70-2000, cela impliquait de penser et le sujet de l'action et le sujet de, disons pour l'instant, de l'expression, donc dans le langage. Alors, dire sujet de l'action dans l'activité située, c'est des mondes épistémologiques très nombreux et je suis bien entendu incapable, même avec plus de temps, d'en faire un panorama critique. J'évoquerai plutôt certaines approches des SHS qui se retrouvent aussi parfois dans vos bibliographies et vous apporteront. Apparaîtra que nombre d'autres sont importantes à vos yeux et ne sont pas citées, c'est que je ne les ai pas vues. Ces appuis m'aideront à dire pourquoi c'est intéressant de poser, de penser avec le terme de sujet, plus qu'avec subjectivité
ou processus de subjectivité.
Alors parmi les approches qui cherchent à penser l'un des sujets de l'action, il y a tous ceux qui, dans la foulée de Polanyi, comme Zuboff ou Beck, ou d'Elias, comme Ilouz, ont voulu réfléchir aux transformations sociales et à leurs effets sur les gens, leurs rêves, leurs projets, leur manière de se comporter avec une analyse des modernités. Une analyse en termes d'individus, le plus souvent. Pour nous qui tâchons de ne pas perdre les passages nécessaires d'une économie politique des organisations à la mise au travail des gens, des secteurs productifs ou de services, des états de leurs administrations, c'est une manière de penser la temporalité de systèmes économiques et sociaux sous domination d'une économie politique. Zuboff avec son capitalisme de surveillance. Cela parle autant des organisations que des gens au travail, de leurs aventures, trajectoires, restes, certes pas partout, dans une partie du monde, celui de la seconde, voire de la troisième modernité, ici, maintenant. Bien sûr, là encore, les régimes de temporalité, ici font large, qu'il reste à combiner avec d'autres. Une seconde approche du sujet nous renvoie au cadre et aux normes institutionnelles propres à l'activité et au travail, c'est celle d'Alain Supier. Ses travaux sont plus directement en lien avec le travail et les affaires, et la temporalité du travail est récente. Son intérêt est qu'il suit les évolutions du droit du travail. Oui, les sujets de droit, n'est-ce pas ? Un autre est son analyse de la gouvernance et des effets d'un retour de relations de type féodal, l'allégeance, caractéristique des rapports entre le sujet, la salle, et son suzerain. Une autre manière d'analyser ce que Bernard Floris d'abord, puis Daniel Linhart ensuite, renvoyait aux transformations du management avec le terme de subjectivation et les formes d'individuation du travail et d'évaluation de la productivité. Et encore, comment ne pas citer les collègues qui ont tenté de penser dans une approche plus foucaldienne la manière dont les dispositifs, notamment organisationnels, ou ce qui n'est pas la même chose, managériaux, construisent un assujettissement, concept différent de celui d'aliénation. Devenir sujet, c'est aussi être assujetti. Un concept qui permet de prendre en compte la force des cadres institutionnels, matériels et symboliques. En comme des organes, Thomas Heller a coordonné un numéro d'études de communication paru en 2005, Organisation, dispositif, sujet. Et cette perspective a pu conduire aussi des collègues comme Isabelle Bazet et Anne Maillère à décrire des processus de disciplinarisation. Pour finir, j'allais plutôt plus haut évoquer l'approche pragmatique en m'appuyant sur l'ICOP. J'ai montré comment l'analyse de l'activité supposait certes une analyse du sujet de l'action, mais mieux. Du sujet et des équipements de son travail dans l'activité. Ceux qui ont suivi la sociologie du travail et le groupe L'engagement au travail ont pu enfin apprécier la théorisation de la psychodynamique du travail, intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, une approche du sujet non conçue comme transparence à soi-même par la conscience. Ce sujet est lui-même diffracté, éclivé, comme dans l'approche psychanalytique auquel clôt sur le fait et moi-même. Ensuite, cette approche ouvre à l'analyse des difficultés du travail du collectif. Injonction et recherche du travail qui fait sens pour les équipes au travail. Peut-on, sans confusion, ne pas choisir une de ces approches, mais accepter la multiplicité? Je pense que c'est dans chacun de nos équipes que nous savons travailler l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces approches qui nous nourrissent. Nous cherchons pas à pas ce qui permet d'aller plus loin en gardant quelques cohérences. Mais certes, il s'agit de repenser les gens comme sujet dans et de l'action. Alors j'ai aussi, ce sera le suivant, proposé qu'on n'oublie pas le sujet de l'expression ou mieux dans le langage. L'interactionnisme symbolique, certes, s'intéresse plus largement aux espaces d'interaction en ouvrant à la visibilité des autres corps expressifs. Mais déjà, dire et penser sujet dans le langage, c'est aussi éviter la clôture du mot. De l'avéniste Bakhtin, j'ai retenu que quand on devient sujet, je dans le langage, c'est un langage déjà là, daté, situé, fait de discours et de mots qui traversent le sujet et le constituent en partie, dont nous sommes faits d'autres. L'analyse des discours en cycle, c'est une base utile, n'est-ce pas? Et le sujet au travail, c'est un gros de sujet. Dans mes formations doctorales dans les années 2010, j'aimais faire entendre ceci en cours pour vous, aux étudiants. Mais qu'est-ce que les échanges engagés au travail ont de spécifique? En vrac, des choses très diverses dont la portée n'est pas toujours aussi structurante. 1. Imaginons que pour travailler, je dois produire un texte sous PowerPoint et que dans l'organisation, un projet, on appelle une presse. Alors, quelle différence dans le régime d'auteur? Peut-on se copier sans se citer? Si je quitte la boîte, est-ce que je reste propriétaire de mes fichiers et de ma contribution? C'est une référence au travail de Gaglio et de Zaclav dans les années 2006-2009. Imaginons que dans mon travail, je téléphone à un client pour présenter un nouveau produit. Suis-je maître de mes arguments ou suis-je astreint à une expression qui emprunte des items dans une bibliothèque informatique de paragraphes arguments comme quasi porte-parole accrédité de l'entreprise? C'était le début des plateformes téléphoniques. J'en avais d'autres comme ça, mettant en lumière des questions d'autorisation, d'accréditation, d'obligation ou de restriction de responsabilité, impliquant dès lors des enjeux subjectifs. Suis-je maître du moment, du lieu, élément clé du cadre des échanges, n'est-ce pas? Quelle latitude ai-je à définir mon rôle, à décider de mon engagement ou de mon retrait? C'est un terme utilisé comme un des rapports de travail par Saint-Sauveur, n'est-ce pas? Par exemple, lors des crises, bien. Et comment se gèrent les transformations sur la durée? Je concluais, enfin imaginons que le jeu, mais qui est donc ce jeu susceptible de s'exprimer? Un auteur? Un sujet? Et qu'est-ce que le contrat de travail vient changer dans ma capacité d'expression? Suis-je enrôlé comme salarié? Ai-je le droit de dénoncer? Dans quelle situation? De mentir en toute connaissance de cause? Dans quel régime de relation? Que veut dire ne pas transmettre à l'interne? Sujet. Certes, le danger ici, c'est de privilégier un jeu plutôt que le nous. Le nous fragile des collectifs, des projets, de l'institutionnalisation des métiers, de leur dissociation managée. Un jeu certes pluriel, membre d'eux, avec des identités composites. Néanmoins, quand les gens communiquent, il y a des moments d'engagement subjectif. Alors, conditions de travail, c'est le suivant. Alors, j'ai la limite sur normes et équipements. Parce que les gens soient pris dans l'histoire économique politique des organisations, des États qui gouvernent les économies capitalistes jusqu'au système de santé ou au système universitaire, sous le public management, c'est une base de nos travaux, à beaucoup ici. Vous y prêtez attention. Mais dès lors que communiquer, ce sont des moments, hein, rien que. Et dès lors que c'est pris dans des histoires de formats d'échange, des histoires d'instruments pour échanger en présentiel ou à distance, outils d'inscription, de duplication, de mémoire, de transformation des matières et données, bref, ce qu'on appelait abusivement infrastructure ou de manière trop réduite artefact. C'est le point sur lequel j'appuie. Au travail, ces histoires méritent d'être documentées, car non seulement il y a des formes, mais aussi des normes, position de Christian Lemoine. Je préfère dire que le travail est équipé et normé, équipé d'équipes multiples, pas rien qu'une, bon, équipé d'outils, j'ai dit qu'il bougeait, et équipé de valeurs, c'est ce qui permet parfois de procrastiner, de ne pas décider, ou d'aller à toute allure. Alors, quelle rationalité prêter aux acteurs ? D'ailleurs, cette manière de prendre en compte le sujet, cela m'a amené à devoir revisiter, grâce à Bernas, la rationalité que chercheurs et les autres peuvent prêter aux acteurs sociaux. Pour aller vite, à Bernas, en disant l'agir stratégique, l'agir régulé par les normes, l'agir dramaturgique, et je laisse de côté l'agir communicationnel, qui est son apport personnel, il permet d'imaginer d'autres rationalités que le désir de gagner, qu'il montre à lier à l'information préalable et constante sur la situation face à l'autre, partenaire ou concurrent, individualisme méthodologique oblige. Et il souligne que Goffman a permis de penser la rationalité d'un agir dramaturgique où l'acteur est pris dans une situation où c'est l'interprétation que fait l'autre et l'effet qu'ont le public, l'histoire, les participants, le cœur sur lui-même qui oriente et désoriente l'échange. Une de mes positions est que l'on va trop vite en besogne si on se focalise uniquement sur l'agir stratégique ou si on ne traite que de la régulation par les normes comme force du pouvoir social ou managérial sur l'agir. Penser la rationalité des acteurs en termes d'agir dramaturgique redonne de l'épaisseur et relance l'activité des collectifs. Et dans ma perspective, il faut justement multiplier tous ces moments et ces lieux d'échange, car les moments communicationnels n'ont pas tous lieu sur le workplace, les scènes changent, les gens bougent. Alors, et presque pour conclure, c'est aussi cette orientation qui m'a amené à proposer une définition de communiquer. Communiquer serait prétendre déplacer matériellement, ici faire changer de lieu de place, et ou symboliquement l'autre. Prétendre. Je préfère cette formule plutôt que le concept de visée des théories de l'activité. Action, tentative, intelligence de l'interprétation, capacité expressive et ressources, mais aussi, à la clé, échec, frustration, oubli. Prétendre, car bien sûr, certains disposent de moyens plus efficaces que la communication pour déplacer matériellement et symboliquement l'autre, même dans les lieux de travail où on rend parfois plus assuré. Bien sûr, car déplacer cela se fait autrement que par communiquer. Je m'excuse de le dire, on le voit à Gaza et au Liban, on le voit sous l'effet de la faim, même si, en plus, ça communique. Alors, la communication symbolique, elle n'est pas vraiment tout à fait assurée tout le temps. Bien. Déplacer l'autre. L'autre renvoie certes à des références analytiques, mais ici, en milieu de travail, il s'agit de penser les autres dans une vision plus dramaturgique de communiquer, où les participants ne sont pas toujours dans l'ici maintenant, ne sont pas que des protagonistes, mais aussi des auditoires, des témoins, voire, et on va passer à l'imaginaire, n'est-ce pas, des références évoquées dans l'imaginaire personnel, plus ou moins partagé, celui du métier ou des valeurs du bon faire, du bien faire. Ici, je m'appuie encore sur une conception du sujet comme traversée de discours et de langage, s'exprimant en étant affecté par ce qu'il ressent et ce qui se dit de lui. Pas seulement socialisé, mais partageant une culture suite à une acculturation, intégration. Il est pris dès lors en effectuant un travail communicationnel équipé, normé, dans des équipements qui, pour partie, ne lui appartiennent pas, des normes en partie exogènes, en partie métiers, en partie construites dans ses trajectoires de vie, work et labor, pour reprendre la distinction que faisait Archie pour le travail émotionnel. J'ajoute, épistémologie oblige, que déplacer matériellement et ou symboliquement me permet de chercher à éviter le dualisme corps et esprit en suivant les mouvements des trajectoires. Chose plus complexe à faire en termes de méthode, dès lors que les espaces sont des lieux, espaces de travail, et non pas des espaces publics comme dans la tradition goffmanienne. Bref, le 5 auquel vous échappez, ou presque, sera pour, comme je suis trop long, dire qu'effectivement aussi, il faut prendre en compte les gens qui communiquent au travail, et pas simplement la communication qui sert à assurer la coopération, l'intelligence collective permettant des réarticulations, à laquelle Michel Grosjean et Michel Lacoste nous avaient sacrément aidé de penser cela il y a bien longtemps. Alors, je voulais juste évoquer que j'ai voulu proposer le concept de scène dispositive pour aller plus loin que scène énonciative, pour penser les déplacements des gens au travail au cours de leur activité, car ils se déplacent ou sont déplacés au travail dans plusieurs lieux, par exemple la médecine du travail, les RH, on vous envoie chez le coach, vous faites des formations, et ce sont des lieux équipés de gens de métiers différents. Et ils sont tous, eux aussi, au travail. Et par et leurs méthodes, et leurs écrits, et leurs interactions, ils vous déplacent matériellement, certes, c'est fait, et symboliquement, autant ou militant. Bien. Alors, comment suivre? Alors, c'est pour finir. Ben, je reviens sur l'analyse politique que j'évoquais en introduction, et la question comment développer une épistémologie, donc, des méthodes que nous pouvons vraiment mettre en place dans nos conditions de travail, c'est un problème d'aujourd'hui que je trouve considérable, et pas seulement lors de la thèse, quoi. Étant donné les conditions imposées à la recherche aujourd'hui, si nous visons à comprendre ce que veut dire communiquer au travail, les choses sont vraiment difficiles aujourd'hui. Alors, courage trois fois, et soyez malins, et merci pour votre écoute.
Thank you.